Cascodeur Podcast épisode 185. Interview sur le développement logiciel et la qualité du code avec Freddy Mallet. Enregistré le 8 mars 2018.
Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode des Cascodeurs avec un invité aujourd'hui. On va parler de qualité de code, on va parler de faire briller votre application, faire briller votre code pour que vous en soyez fiers et que tout le monde soit fier de son application. Je suis aujourd'hui avec, donc c'est Arnaud derrière le micro, aujourd'hui je suis avec Freddy Mallet. Bonjour Freddy.
Bonjour Arnaud.
Donc très content de te recevoir, ça fait nous deux un petit bon nombre d'années qu'on se connaît.
Qu'on se tourne autour, qu'on se voit régulièrement.
Parle-nous un petit peu de toi, donc qui es-tu Freddy ?
Qui je suis ? Bah, tout d'abord, merci pour l'invitation Arnaud. Qui je suis ? Bah, comme tout bon français qui commence par citer son premier diplôme, je vais faire la même chose, mais moi je vais dire que mon diplôme le plus utile, ça a été mon BAFA, donc... brevet d'aptitude à la fonction d'animateur que j'ai eu à 18 ans. Et je pense que c'est ce qui a été le plus structurant ensuite pour toute la suite de ma vie professionnelle. Et si je peux te prendre un exemple, c'est dans les années 2000, donc dès 2000-2001, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de mettre en œuvre l'extreme programming, et non pas parce que moi j'ai souffert des affres des méthodologies en cascade ou des hiérarchies lourdes, pesantes, castratrices, etc. Moi, j'ai jamais eu à m'en plaindre. Mais ce qui m'a plu dans XP, bah, c'est tout cet aspect collaboratif, équipe plus ou moins auto-organisée. Mais cette sensibilité m'est venue en fait de ce diplôme initial là, de brevet d'aptitude à la fonction d'animateur.
D'accord, donc plutôt l'humain que finalement la technique. C'est plutôt ça qui t'a, toi, au début, tiré vers...
À la base, tout à fait. Après, je dois bien avouer que j'adore également résoudre des problèmes, qu'ils soient d'ailleurs fonctionnels ou techniques. Est-ce que tu veux que je te déroule un tout petit peu plus ce qui s'est passé par la suite, là, après
Bah vas-y, parce que donc là, on en était aux années donc 2000, ouais. Effectivement, un peu comme toi, moi j'ai démarré aussi par XP à ces époques-là, en ayant un petit peu souffert, mais vraiment très peu, des gros projets en cascade, même si j'ai bien connu ça dans certaines SS2I. Non, comment on appelle ça maintenant aujourd'hui ? Ah, j'ai encore oublié le terme. mais effectivement, et donc bah après, donc là, 2016, allez, qu'est-ce que t'as fait là en 15 ans ?
Alors en 15 ans, bah alors juste pour revenir sur les années 2000, juste pour la petite anecdote, comme on parle entre anciens là, t'as dû connaître un moteur d'intégration continue qui s'appelait Cruise Control.
Bien sûr.
Nous en fait, mais qui est apparu vraiment tout début des années 2000, et quand on a voulu mettre en place XP, on n'avait pas encore un moteur d'intégration continue, donc on s'est amusé à cette époque-là à développer un moteur d'intégration continue avant de passer sur Cruise Control. C'est les bons vieux souvenirs. Et puis ensuite, j'ai rejoint une société de service là sur Genève, une petite société qui s'appelle d'ailleurs toujours Ortis. L'idée, c'était de construire une offre de service autour de l'agilité, donc faire du consulting, aider les gens à basculer sur l'agilité. Et puis c'est dans le cadre de cette construction de cette offre de service qu'à un moment donné, on s'est dit bah voilà, on maîtrise bien Maven, moins bien que toi d'ailleurs à l'époque. On maîtrise bien Maven, on maîtrise bien toute la chaîne de build. Il y a des outils comme Checkstyle, PMD, Findbug. Il y a d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y avait une super page d'un certain Vincent Massol sur un Confluence qui expliquait que ça serait bien d'avoir un super dashboard de suivi de la qualité du code pour pouvoir justement traquer tous ces problèmes qualité.
Et je l'ai retrouvé non. Justement en préparant l'épisode, je l'ai retrouvé, il y a toujours une copie, je mettrai dans les show notes, mais cette page existe toujours où effectivement il y a ton commentaire à la fin, on retrouve ton commentaire
c'est
à la
beau.
Fin où tu dis, tiens, C'est comme ça qu'a commencé un certain outil qui s'appelle donc Sonar.
Voilà, parce que je tiens, si on doit rendre à César ce qui lui appartient, c'est clairement Vincent finalement qui a eu l'idée de lancement de Sonar. Bon, alors ça s'appelait pas Sonar. On est reparti de cette page Confluence et puis on a suivi notre petit bout de chemin. Donc on a commencé au sein d'Ortis à développer Sonar, donc qui s'appelait à l'époque Sonar, désormais qui s'appelle Sonar Cube. Et puis au bout de 2 ans, c'est très bien que le métier de société de service et d'éditeur logiciel, c'est pas compatible. Donc au bout de 2 ans, on a décidé de créer une spin-off et de lancer Sonar Source et de lancer Sonar Source avec mes deux acolytes de toujours, Simon Brandeuf et Olivier Godin. Donc ça c'est en 2008, lancement de Sonar Source. À l'époque, on va dire au fond d'un garage à Troyes, avec des tout petits moyens. Et puis progressivement, l'entreprise a grandi, le bébé a grandi. Aujourd'hui, on est un petit peu plus de 70 personnes travaillant pour Sonar Source, 17 nationalités différentes. C'est tout un symbole pour moi. Et puis on continue à se développer et puis on aura l'occasion là de parler des projets excitants qui nous restent à faire, à couvrir.
Très bien, très bien. Bon bah c'est un beau parcours. Donc on va revenir maintenant au sujet. Le sujet, donc l'idée, c'est pas de parler de Sonar en tant que tel, mais c'est de parler déjà de la qualité de code, puisque finalement, comme tu le disais, quand t'as débuté, ce que tu voulais, c'était, t'avais tes projets, t'avais des développements, comme moi à l'époque, t'étais en SS2I, donc tu voyais les choses qui se faisaient plus ou moins bien, qui étaient de certaines qualité. Et je me rappelle qu'effectivement, personnellement, mon passage de Ant à Maven, ce qui m'avait intéressé, parce que c'était, bon, effectivement, je voyais bien l'intérêt vaguement du Maven avec sa standardisation, etc. Mais moi, le truc qui avait fait bling bling dans mes yeux à l'époque, c'était la partie reporting. Donc, comme tu disais, c'était ces fameux outils de qualité qu'on commençait à voir naître, donc, dans les années très tôt, hein, dans les années 2000, quelque chose, hein, les checkstyle. Donc, je sais plus lesquels il y avait encore à l'époque. Il y avait un checkstyle PMD, je pense,
PMD,
à l'époque,
ouais.
Au moins.
Après, est apparu Findbox plus tard.
Ouais, ouais, c'est ça, Findbox a été arrivé plus tard, et effectivement, c'était se dire, tiens, on peut, et en plus, donc automatiquement, à l'époque, avec Maven et ces fameux sites web que plus personne n'utilise aujourd'hui, peut avoir des rapports pour se dire, tiens, il y a peut-être des trucs qui sentent mauvais. Donc, revenons-en à la qualité du code. C'est quoi la qualité du code, au final? Parce que, voilà, enfin, du code, on est plein de développeurs dans le monde à écrire du code. C'est quoi la qualité du code? Comment que je sais si j'écris du code propre ou pas propre? Ça existe, d'ailleurs, du code propre?
Oui, ça existe. Alors par contre, j'espère que je vais pas te décevoir parce que je vais pas parler d'esthétique du code, je vais pas parler d'art de la programmation, etc. Je vais revenir à une définition un tout petit peu plus triviale. En fait, nous, la qualité du code, pour nous, ça s'évalue suivant 4 axes. Un code de qualité, c'est suivant un premier axe, c'est indépendamment de la manière dont ça va tourner en production. C'est quelle est la capacité d'un développeur demain à faire évoluer un bout de code. Donc c'est ce qu'on appelle le niveau de maintenabilité du code. Donc bah par exemple, si tu as du code dupliqué, tu as du code non couvert par les tests unitaires, bah on a tous expérimenté que faire évoluer un code qui est pas couvert par des tests unitaires, dans lequel il y a plein de duplications, il y a des dead stores de partout, ça peut être plus compliqué parce qu'on passe un temps fou à essayer de comprendre exactement quelle était l'intention du développeur. Donc le premier axe, c'est la maintenabilité. Le deuxième axe, c'est la fiabilité, donc généralement ce qu'on appelle des bugs. Donc là, c'est vraiment la manière dont va se comporter l'application en production. Donc, pour te prendre des exemples très connus, ça va être des référencements de null pointer, des conditions qui vont toujours être fausses, donc du code mort, et là, il y a peu de chances que le code corresponde à l'intention initiale du développeur, des conditions if-else qui contiennent exactement les mêmes implémentations, donc là encore, c'est que certainement, il y a quelque chose qui va pas se comporter comme voulu en production. Donc, maintenabilité, fiabilité. Troisième axe, c'est la partie sécurité. Et sécurité, ça va être, alors là, on parle surtout des applications web, même si c'est pas restreint qu'aux applications web, mais on va parler des risques d'injection SQL, cross-subscripting, injection LDAP, enfin voilà, tout genre de vulnérabilité assez connue qu'on va pouvoir également détecter via une analyse statique. Et le quatrième axe, c'est un aspect un petit peu plus légal. Ça va être par exemple de s'assurer que ton code il compte à bien un en-tête avec la bonne licence, le bon copyright, que dans ton code tu n'utilises pas des mots que la politique interne t'interdit d'utiliser et que donc je n'utiliserai pas aujourd'hui durant cette interview. Donc voilà, un code de qualité, c'est un code maintenable, fiable, sécurisé et qui correspond aux critères légaux en place dans une société. Et généralement justement quand on commence à utiliser des outils d'analyse de code, on n'a pas forcément une compréhension fine de ces quatre axes. On se dit tiens bah on va aller détecter des issues, mais savoir si c'est des problèmes de maintenabilité, fiabilité, sécurité ou des problèmes légaux, on fait pas forcément le tri en fait.
Je vois bien qu'on est loin du positionnement de la virgule ou de la parenthèse, comme effectivement c'est les trucs de base qu'on voit avec des check style ou des choses comme ça. Je me rappelle de débats qui peuvent durer des jours voire des années pour mettre des développeurs d'accord sur est-ce que la parenthèse, l'accolade est à la fin du if ou sur la ligne suivante. Donc on voit bien qu'on n'est pas ce cadre-là, et qu'effectivement les quatre axes ont des sens différents avec, donc j'imagine derrière finalement des buts différents, parce que il y en a certains qui sont peut-être plus court ou long terme sur l'impact que ça peut avoir sur ton logiciel, j'imagine.
Tout à fait. Typiquement la partie maintenabilité, comme je le disais, généralement c'est juste c'est juste lié à la capacité demain d'un nouveau collègue de pouvoir modifier rapidement ce bout de code. Donc généralement l'impact en production il n'existe pas. Il n'y a pas de risque opérationnel lié à un problème de maintenabilité. Par contre il y a une vraie problématique éventuellement de surcoût en termes d'efforts de développement. Alors l'autre problème, c'est que généralement, on n'est pas capable d'évaluer quel est ce surcoût. Et d'ailleurs, nous, on n'a jamais essayé d'évaluer ce surcoût, et ça serait totalement malhonnête d'essayer de le faire. Bon, quand on a fait du développement, on sait qu'il existe. Donc, côté fiabilité, sécurité, c'est des risques opérationnels. Maintenabilité, c'est vraiment sur du plus long terme, en fait. Et puis, la partie légale, c'est plus là, éventuellement, des risques juridiques, quoi, en fait.
Alors donc sur tous ces aspects-là, finalement moi je commence un développement. Alors déjà bon, quand on commence un développement, on sait déjà pas tout le temps quel est le futur. Est-ce que c'est un projet qui va être très court et qui va rester dans sa boîte, ou est-ce que c'est vraiment un truc qui va durer des années et qui va être top critique pour ton entreprise? Mais donc finalement ces aspects qualité du code, c'est quoi? C'est des choses qu'il faut qu'on fasse dès le début du projet, c'est quelque chose qui doit être une priorité, c'est-à-dire que aucune ligne de code sans qualité, sinon bah c'est la porte. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit adapter en fonction justement du projet, de sa criticité? Si je code une petite librairie que je suis le seul à utiliser, l'intérêt peut-être pas, et le coût, parce que j'imagine que donc tout ça a un coût, puisqu'on parle de faire les choses d'une certaine manière, de faire les choses bien, donc obligatoirement si on les fait pas naturellement, c'est qu'il y a un coût de revue de code ou de correction, etc. Est-ce qu'on doit appliquer ça dès le début du projet? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut juste être conscient? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut amener par la suite? C'est-à-dire que est-ce que mon projet que j'ai laissé traîner pendant 4 années sans aucune qualité, je dois demain lui dire bah allez ça y est, on va tout mettre au carré, puis il va falloir que ça soit super propre et ça va changer ma vie?
Alors attends, parce qu'il y a plusieurs questions finalement et plusieurs éléments de réponse. Le premier point, et sur lequel on est hyper confortable depuis qu'on a lancé Sonarsource, c'est on est les premiers à dire que une équipe de développement, quand elle commence à mettre en place son environnement de développement, la priorité, ça ne doit surtout pas être de mettre en place un outil d'analyse qualité comme SonarCube ou SonarCloud. La priorité, c'est de l'intégration continue, c'est de la traçabilité fonctionnelle, c'est bien entendu des tests unitaires, et seulement quand on a atteint ce niveau de maturité, là, on peut se poser la question de mettre en place un outil comme SonarCube et SonarCloud. À titre d'exemple, il y a désormais de quelques années, j'ai fait un audit de code dans une banque française connue, dont je ne citerai pas le nom, et Et c'était sur une application de gestion d'un risque financier, application qui devait avoir une dizaine d'années. Et sur cette application, on avait un petit peu plus de 20% du code qui était dupliqué. Donc une application business critique, au moins les duplications, c'est un sujet qui prête pas à controverse, tout le monde dit c'est le mal. Et pourtant, sur ce projet-là, il y avait 20% de lignes dupliquées, et les équipes de développement, enfin l'équipe de développement en l'occurrence, en était parfaitement consciente, mais en même temps, il n'y avait pas de test unitaire, il n'y avait pas de test d'intégration automatisé, et ils avaient fait le choix sciemment, et moi je les comprenais, et je continue à les comprendre, de dupliquer le code, parce qu'ils voulaient pas prendre le risque d'injecter un changement sans connaître en fait les... tous les impacts business. Donc ils ont fait le choix en fait finalement de détériorer la qualité du code, et typiquement moi ce que je dis c'est commençons à remédier la qualité du code qu'à partir du moment où il y a une pratique de test unitaire qui est en place, parce qu'autrement le risque d'injection d'une régression fonctionnelle il est énorme. Donc sous prétexte d'améliorer la qualité interne, pouf, on va détériorer la qualité externe qui est la pire des choses. Donc le premier élément de réponse, c'est de dire pour commencer à s'intéresser à des outils d'analyse du code comme ça pour en améliorer la qualité, il faut d'abord des prérequis qui soient respectés. Donc une nouvelle fois, l'intégration continue, une bonne stratégie de gestion de conf, de la traçabilité fonctionnelle, et des tests unitaires, il faut que tout ça soit bien en place, quoi. Une fois que ça c'est bien en place, je sais qu'il y a toujours cette tentation de dire une application que je commence à développer, peut-être bien que dans 3 mois, dans 1 an, pour des raisons business, elle ira à la poubelle. Donc finalement, à quoi bon? À quoi bon faire du code élégant? À quoi bon faire du code qui est maintenable? Parce que finalement, c'est peut-être un surcoût et ça ne sert à rien de le payer. En même temps, je pense que tous autant qu'on est, on a eu l'occasion de travailler sur ces applications dont théoriquement la durée de vie va être extrêmement faible et que sur lesquelles 10 ans plus tard, on a des petits collègues qui continuent à ramer. Donc j'ai tendance à pas trop adhérer à cet argument. Je suis pas un ayatollah de la qualité du code. Hein, si c'est vraiment pour faire un prototype, pourquoi pas. Mais ceci étant, si on oublie l'analyse statique et qu'on en revient au test unitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a goûté au test-driven development, même pour faire un petit POC, hein, il va continuer à faire du test-driven development. Hein, et il va pas se dire écrire des tests, ça a un coût. On sait très bien que écrire des tests, en fait, le retour sur investissement, il est très rapide. Et donc, si l'outil d'analyse de code, on est capable également de le mettre en place très rapidement avec un coût faible, et ça, c'est un autre sujet, c'est quel est le coût de mise en œuvre de solutions comme ça. Si le coût de mise en œuvre, il est relativement faible, je pense qu'on a tout intérêt à ce que ça soit mis en place le plus rapidement possible.
Donc on en revient au problème du coût de la démarche qualité, de savoir quand est-ce que ça vaut le coup de la mettre, comme tu le dis. Enfin, je crois qu'on a tous connu les fameux POC qui partent en prod. C'est le fameux truc
tout à fait
classique. On l'a tous eu. Ou les petites applications qu'on a codées en 5 minutes, et puis finalement tu rencontres quelqu'un dans une conférence 5 ans après qui te dit: oh, mais c'est toi que j'ai vu dans les headers @author de ce code. Oh, j'aurais jamais dû mettre les @author dans les Java docs. Mais quelle erreur! On va vous retrouver facilement. Donc je suis bien d'accord avec toi. C'est quelque chose, c'est toujours difficile de savoir que, c'est toujours utilisé.
Et d'ailleurs, juste pour la petite anecdote, hein, moi-même chez Sonarso, parce que, au départ, j'ai fait pas mal de développement et j'ai notamment développé les premières versions de notre analyseur COBOL, qui est écrit en Java. Et j'ai encore régulièrement des sonar sourceurs qui reviennent vers moi en me disant, au fait, le code que t'as fait il y a 8 ans là que je suis en train de maintenir. Donc généralement, en effet, la durée de vie des applications est assez longue, et finalement tant mieux, quoi.
Oui, c'est ça. Finalement tant mieux, et c'est une question de pratique, c'est-à-dire c'est une question d'expérience au final, comme tu dis. Si tu t'y habitues, si les bonnes pratiques tu finis par les acquérir, faire de la qualité, faire tout du moins avoir les démarches qui vont bien pour essayer d'atteindre une certaine qualité, ça devient naturel. Donc c'est plus quelque chose que t'acquiers.
Tout à fait.
Et donc maintenant, aujourd'hui, donc finalement, ce qui est assez intéressant, enfin moi, ce qui m'a toujours étonné, et d'ailleurs ce que j'ai toujours eu du mal à comprendre, c'est pourquoi l'écosystème Java me semble quand même être beaucoup à la source de ce de cet effort, parce que c'est quelque chose quand on voit sur les autres technologies, enfin il y a plein de langages, plein de techno et qui sont plus vieilles que Java, hein, voilà, où ces problématiques de d'outillage pour faire de la qualité de code machin, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, voilà, ça fait donc maintenant plus de 15 ans, oh là là, ouais, on est vieux, ouais. Plus de 15 ans que ce genre d'outils existe pour essayer de d'automatiser des contrôles sur la base du code, donc généralement, comme tu dis, bon, souvent des outils de d'analyse de code statique, donc ils ne font pas tourner, ils regardent juste le code lui-même, savoir comment que ça s'enchevêtre et de savoir effectivement deviner, il y a des trucs propres, pas propres, comme tu l'expliquais tout à l'heure, plus bien sûr, on en revient aux choses plus dynamiques sur les tests, la couverture, où là, effectivement, effectivement, t'es censé exécuter plus ou moins une partie de ton application pour se rendre vraiment compte ce qui se passe.
Ouais.
Mais donc aujourd'hui, en 2018, qu'est-ce qu'on arrive à faire comme dans les outils, dans les automatisations, voilà, de mieux que ce qu'on pouvait pas faire avant? On en est où là sur cette pratique de tester, de valider toutes ces qualités
Ce qui a évolué, et puis je suppose que c'était pas anecdotique que tu mentionnes tout à l'heure, les styles de programmation et cette perception que un petit peu standard, commune à tout à chacun, qui consiste à dire bon, les outils d'analyse de code, c'est juste pour vérifier que j'ai bien qu'un statement par ligne ou que j'utilise bien des accolades ou grandes fermentes autour de l'ensemble de mes blocs, etc. Et on en est tous là, et d'ailleurs, c'est pas totalement inutile, hein. Moi ça me va bien, par exemple, de casser un build quand il y a des règles de style de programmation qui sont pas respectées. Mais en effet, maintenant, avec les outils d'analyse statique, on est capable quand même de faire beaucoup mieux, typiquement en analyse de flux d'exécution, j'allais dire même avec des outils open source, même avec la suite SonarQube, on est capable de parcourir tous les flux d'exécution possibles pour aller détecter des cas de ressources JDBC qui sont pas fermées, de fichiers qui sont pas fermés, les cas de déréférencement d'une pointer que je citais tout à l'heure, évaluation de conditions qui sont toujours très vraies ou fausses en fonction du passé. Et la plupart du temps, ces problèmes-là, c'est très compliqué en fait de les identifier manuellement quand tu fais une revue de code. Et moi, je suis un grand fan des revues de code manuelles, et je pense pas du tout que les outils d'analyse automatique doivent remplacer la revue manuelle, mais par contre, ils viennent pour en supplément en fait, pour aider à cette revue manuelle. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que tout à l'heure on parlait un petit peu de pull request là, qui est un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà, c'est amener de la valeur aux personnes qui font du code review, et maintenant on est capable de détecter des erreurs qui sont beaucoup plus avancées que ce qu'on était capable de faire il y a 10-15 ans, quoi. Si je prends l'exemple des vulnérabilités également, ça nécessite de parcourir tous les chemins d'exécution, mais au sein de l'ensemble de l'application, donc bon, ça demande des techniques un petit peu velues.
C'est ça, c'est là où on dépasse énormément le cadre des débuts de ces outillages, où effectivement, bon, au niveau d'un fichier source, au niveau de 3-4 lignes de code, bon, à la limite, découvrir un objet qui est pas référencé, un truc qui va finir en nul, etc., c'est pas très compliqué, mais déjà c'est déjà pas simple. Ouais. Mais effectivement, aujourd'hui, au niveau d'une application, une application découpée en modules avec des centaines, des milliers, voire plus de lignes de code, tous les chemins possibles, sachant que donc c'est là où ça devient intéressant, c'est que c'est parti, bon, je trouve beaucoup de Java, mais on voit bien avec votre produit Sonar, mais plein d'autres langages maintenant s'y mettent. Enfin.
Tout à fait, mais d'ailleurs, je saurais toujours pas expliquer pourquoi tout a démarré avec Java, parce que je te suis totalement sur ce constat, c'est-à-dire qu'en termes de maturité des pratiques de développement, les équipes Java étaient clairement en avance de phase par rapport aux autres. J'irai pas jusqu'à dire que c'est toujours le cas, hein, parce que typiquement, si on prend l'exemple de .NET, le chemin parcouru, il est énorme, et désormais, les équipes .NET ont bien souvent rien à envier aux équipes qui font du développement Java. Je vois pour les développements web avec TypeScript, c'est également en train de bien évoluer, mais en Java, ouais, il y avait bien, je sais pas moi, 6 à 7 ans d'avance, et c'est d'ailleurs pour ça que nous-mêmes, avec SonarQube, on a démarré par le support du langage langage Java, c'est là que ça a pris parce que la maturité était au rendez-vous. Maintenant, on couvre un petit peu plus de 20 langages différents et en C#, en C++, etc. Ça prend également. Alors, en C++, c'est un domaine encore. C++, c'est un peu différent parce que le langage en lui-même, il est tellement compliqué à maîtriser que ça fait bien longtemps qu'ils utilisent des outils d'analyse, mais pour détecter des bugs en fait. Tout ce qui est gestion de la mémoire, là, c'est un casse-tête sans nom. D'ailleurs, quand on crée un analyzer pour C++, on comprend à quel point on a de la chance avec les le garbage collector, quoi.
Effectivement, ça reste parti, mais bon, voilà, c'est là où les différentes technologies, différents langages et plateformes, puisque après c'est pas que le langage en tant que structure grammaticale, c'est effectivement tout ce qui va autour. Et
ouais, c'est l'environnement. Ouais.
L'environnement complet qui joue pour beaucoup. Et c'est vrai que voilà, l'évolution en fonction des plateformes et des langages a beaucoup changé. On est capable maintenant d'avoir ce type de contrôle sur beaucoup d'environnements, et ça reste. Mais alors, donc maintenant. Ok, on a plein d'outils, on est capable d'aller vachement plus loin sur l'analyse de ce que l'on fait dans le code, sur différents axes. Maintenant, je suis dans une équipe, je suis dans un projet. Qu'est-ce que je fais pour améliorer la qualité de mon code en continu? Parce que donc tout à l'heure tu disais effectivement ce genre d'outils, qu'on parle de Sonar, mais j'imagine qu'il y a des concurrents ou qu'on parle même des librairies open source, etc. Ça va pas remplacer une revue de code que tu peux faire avec un autre développeur, sachant que donc c'est quelque chose qu'il faut que tu fasses régulièrement. J'ai quand même pas l'impression que c'est quelque chose que tu vas faire une fois par an. Ça va pas trop marcher. Donc finalement, c'est quoi les bonnes pratiques dans un cycle de développement, dans une équipe, pour amener cette qualité de code petit à petit, en fonction des profils, parce que je pense que, pareil, t'as pas les mêmes besoins, enfin, entre ton développeur senior, qui lui va peut-être faire des choses naturellement, et le junior, qui lui va avoir besoin, de comprendre, parce que peut-être qu'effectivement, Sonar va lui crier dessus parce qu'il a fait, il a fait je ne sais pas quoi comme erreur, mais il va pas comprendre. Donc c'est là aussi, peut-être, l'opportunité de faire une revue de code, ensemble pour dire, je comprends pas ce que Sonar, il veut me faire faire, il fait chier ce truc. Donc, toute cette partie-là, c'est quoi les bonnes pratiques pour faire en sorte que que l'équipe y adhère, quels que soient les profils, et puis que finalement ça s'insère facilement dans le cycle de dev.
Donc de nouveau, indépendamment de l'outil, là on parle de méthodo. Sur la partie méthodo, donc même si moi je suis un grand fan de la collaboration, des équipes auto-organisées, etc. En attendant, quand on parle d'agilité, je suis également un grand fan du tout automatique. Et tout automatique signifie que cette partie évaluation de la qualité du code, ça doit faire pleinement partie de la chaîne d'intégration continue en fait. Et si on croit pleinement à ce mouvement en DevOps et à la capacité à faire des mises en production tous les jours par exemple, bien entendu que ce feedback qualité, il doit arriver en continu, et que la bonne vieille époque où on faisait une revue de code juste avant les mises en production qui arrivaient une fois tous les 6 mois, c'est révolu et que faut qu'on passe à autre chose. Donc faut que ça soit automatisé, faut qu'on puisse avoir cette information en continu, passer en prod si on le souhaite tous les jours. Et puis faut que ça soit un petit peu fun. Et là je vais juste glisser deux mots là sur une métaphore qu'on aime bien prendre, qui est la métaphore de la fuite d'eau en fait, qui est toi Arnaud, quand t'as si demain t'as une fuite, je te le souhaite pas, hein, mais dans ta salle de bain, tu rentres chez toi, ça arrive, bon d'accord,
ça arrive.
Tu rentres chez toi, t'as 2 cm d'eau au sol, t'as une fuite, quelle est la première chose que tu commences à faire?
Couper l'eau.
Donc en fait,
je coupe tout.
Tu coupes la fuite, et une fois que t'as coupé la fuite, bon, éventuellement t'éponges le sol, et puis tu répares réellement la fuite et tu remets en eau ton installation. Pour la qualité du code, pour nous, on doit avoir une approche qui est très similaire. Et pour nous, la fuite d'eau, c'est le nouveau code. Et ce qu'on dit, c'est rien n'est plus important que de s'attaquer à cette fuite d'eau. Tout ce qu'il y a au sol, c'est l'ancienne dette, c'est du code qui a été injecté il y a 8 ans, il y a 10 ans. Après tout, il est là, à quoi bon améliorer la qualité d'un code si on n'a pas le faire évoluer durant les 2-3 prochaines années. Pourquoi payer quelque chose maintenant? Pourquoi prendre le risque, encore une fois, d'injecter une régression fonctionnelle alors qu'il n'y a aucun besoin métier? Donc rien n'est plus important que le nouveau code. Et l'outillage d'analyse de code doit permettre de se focaliser uniquement là-dessus. D'autant plus que, généralement, quand on regarde la quantité d'eau qui est au sol, quand on ouvre SonarQube ou SonarCloud pour la première fois, ou Codacy, qui est un concurrent, on prend peur parce qu'en fait, c'est potentiellement des milliers de problèmes qualité et il faut surtout pouvoir les oublier, quoi, parce qu'autrement, c'est super déprimant, quoi. Donc, en fait, l'outillage doit permettre de se focaliser sur le nouveau code et... si on parle de mise en prod, par exemple, tous les jours, uniquement le code qui a évolué depuis la dernière fois, et sur ce code-là, d'avoir des critères qualité qui sont extrêmement élevés. Le code existant, si on prend une boîte comme Google, alors mes chiffres commencent peut-être à dater maintenant, parce que ça date d'il y a 3 ans, mais chez Google, ce que j'avais entendu dire, c'est qu'il y a à peu près 20% du code qui évolue chaque année. Sur l'ensemble de leur parc. Bon, si tu pars de ce constat-là, que tu te dis que tous les ans, t'as 20% du code qui a un très bon niveau de qualité, en fait, de manière totalement mécanique, au bout de plusieurs années, tu te retrouves avec l'ensemble de ton parc qui est de très bonne qualité. Et donc, ce qui est bien avec cette méthode, c'est que comme tu t'intéresses qu'au nouveau code, t'as pas également à supporter un effort de context switching, parce que finalement le code que t'es en train d'améliorer, c'est le code que t'as produit il y a 2 heures hier. Enfin bon, c'est du code qui est là et généralement il y a aucune raison de faire du pushback. Hein, après tout. Moi, je connais pas beaucoup de développeurs qui sont heureux de produire du code de mauvaise qualité, quoi. On a tous envie de bien faire les choses. Donc, nouveau code, et sur ce nouveau code, des critères qualité qui sont relativement importants.
Ok, ça me va bien. Donc, effectivement, on fait ça au fur et à mesure sur le nouveau code, et puis donc on essaye de bloquer le build sur les choses qui paraissent importantes. Donc, c'est là où je voulais en venir après à la fin, c'est-à-dire que, ok. Je vois bien, on s'occupe essentiellement ouais. de ce qui est nouveau, parce que c'est frais dans l'esprit, donc ça permet effectivement en plus de faire des revues, etc. Par contre, c'est ce que tu disais, quand tu mets ton projet, surtout quand tu démarres, tu commences à mettre un sonar, Codacy ou n'importe quoi, tu te retrouves avec 3 millions, tu te retrouves avec les règles par défaut, tu te retrouves avec 3 millions d'erreurs, et puis même sur ton nouveau code, tu te retrouves avec plein de messages que la plupart tu vas peut-être pas comprendre, si tu les as pas déjà travaillés un certain nombre de fois. Et donc finalement, sur cette démarche qualité, on a vu qu'il y avait plein d'axes. Comment est-ce que je fais, moi, pour quand j'ai un outil comme Sonar, mais même des Checkstyle ou des PMD, ça représente des centaines, peut-être même des milliers de potentiels de règles existantes pour contrôler tout et n'importe quoi, que ça soit au début de projet ou que mon projet existe, comment je vais savoir qu'est-ce que je dois activer potentiellement comme règle? Est-ce que je dois finalement... Je mets le sonar profil par défaut et donc avec ces 530 règles ou je ne sais combien, et donc je vais prendre des trucs partout et je nettoierai peut-être au fur et à mesure. Ou est-ce qu'au début, je démarre avec rien et je commence à réfléchir et je fais 3 mois d'études ou 6 mois d'études pour me dire lesquelles 5 premières je vais mettre en place. Et donc, au bout de 5 ans, j'en aurai peut-être 15
d'actifs. Non, mais je comprends.
Comment je fais pour un peu m'y retrouver dans
Alors, de nouveau, là, ce qu'on a tendance à conseiller, c'est... déjà, on part d'une volonté, c'est... faut que ça reste fun. Donc, pour que ça reste fun... faut pas qu'on ait besoin, en effet, pour commencer à utiliser un outil comme SonarQube, faut pas qu'on ait besoin de commencer à se faire des réunions, à discuter le bout de gras sur des règles pour savoir si oui ou non c'est pertinent, parce que ça c'est hyper chiant. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que out of the box, là, on a des profils qualité qui s'appellent SonarWay, et on fait vraiment, enfin, on y met beaucoup d'énergie pour que ces profils qualité, ils soient pertinents, quels que soient les projets. Et qu'on ne génère quasiment aucun bruit, et que tout issue qui est levé doit être une issue pertinente. Alors, bien évidemment, on n'est pas parfait. Il y a toujours des exceptions, et s'il y a des auditeurs là d'ailleurs qui voit du bruit, surtout qui nous rapporte ce bruit-là, qui le partage, on le fixera. Mais vraiment, l'idée, c'est que quand on commence à utiliser l'outillage, qu'on n'ait pas besoin de se poser 46 000 questions sur quelles sont les règles à activer, désactiver, et tout doit être pertinent. Et ce n'est qu'après, si vraiment on veut aller activer des règles qui sont désactivées par défaut, bah là on prend le temps. Puis si on a même envie de développer ses propres règles, pourquoi pas, mais je pense que dans 90% des cas, on devrait pas du tout avoir à configurer un outil d'analyse statique. Et d'ailleurs, à tel point qu'on a on a une idée en cours là, qui est ce qu'on appelle le mode autopilote. C'est un peu comme ta Tesla, où en fait toutes les règles s'adaptent au contexte de ton projet. Donc en fonction de ce qu'il y a dans ton projet, alors je vais te prendre un exemple super simple, par exemple des conventions de nommage sur tes paramètres. On voit ce qui existe, puis en fonction de ça, on adapte le comportement de la règle en fait. Donc ça, c'est vraiment ce dont on rêve pour que les équipes de développement, elles aient pas à se poser 100 000 questions sur qu'est-ce qui fait sens, pas sens, machin. Ça devrait être un non-événement.
D'accord. Donc, opportuniste, on utilise ce qu'il y a par défaut, et puis après, on adapte en fonction des retours, de l'expérience.
Enfin, moi, c'est ce que je dis généralement à tout nouvel utilisateur. Surtout, vous vous embêtez pas à savoir quelles règles font sens. Vous utilisez le profil qualité par défaut, et puis c'est parti. Et si vraiment il y a du bruit qui est généré, vous nous le ramenez, mais la plupart du temps, ça sera pas le cas, quoi.
D'accord. Donc les try catch vite que je fais quand ils me rouspètent dessus, a priori, faut quand même pas que j'essaye de dire que c'est du bruit en trop et que c'est mal, c'est ça?
Ben ceci dit, les catch par exemple qui sont vides. C'est une très bonne remarque, parce que je viens de répondre à un commentaire sur une issue GitHub ce matin, mais je te garantis que c'est le cas là. Il y a quelqu'un qui se plaignait, qui disait mais moi j'ai un catch d'une exception là, j'ai pas envie de traiter le cas pour des raisons fonctionnelles, j'ai pas à traiter le cas. Si on raisonne en termes de maintenabilité, moi j'ai lu le code. Quand on est nouveau développeur et qu'on doit prendre la possession de ce code-là, ça demande un effort de comprendre qu'en fait c'est volontaire. Et cette règle, typiquement, il suffit qu'il y ait un commentaire au milieu du bloc qui explique pourquoi le bloc il est vide. Il n'y a pas d'issue qui est relevé. Et je pense qu'en termes de maintenabilité, c'est préférable d'avoir un tout petit commentaire qui dit pourquoi on a sciemment laissé.
Moi, c'est ce que je fais, je mets un commentaire, c'est Freddy qui m'a dit de pas le faire, voilà. C'est cool.
Là, c'est un coup en dessous la ceinture, là, Arnaud.
Ok, bon, je vois bien, a priori, comment faire ça.
Je voudrais juste revenir sur les pull requests, parce qu'en fait, c'est un sujet là, sur lequel on est en train de mettre les bouchées doubles actuellement. C'est-à-dire que moi, dans un monde parfait, enfin moi, nous, hein, chez SonarSource, SonarSource est loin d'être réduit à ma petite personne là. Nous, chez SonarSource, on croit beaucoup au fait que finalement, l'information qualité sur les problèmes, c'est soit dans l'IDE, soit sur la pull request. Et en fait, il y a très peu finalement de problèmes qualité qui devrait se retrouver déversé dans les branches, en fait, dans le master, dans les branches de maintenance. Donc c'est vraiment les deux endroits, l'IDE et les pull requests, dans lesquels on doit détecter en fait ces problèmes qualité. Et j'allais dire presque si on pousse le bouchon assez loin, sans avoir besoin d'aller dans l'interface SonarCube ou SonarCloud. Donc et si on parle d'environnement de développement, il y a quand même une tendance actuelle là à aller vers il y a quatre grandes suites là avec VSTS de Microsoft, GitHub, Bitbucket et GitLab qui existent à la fois les quatre solutions existent as a service ou pour une installation locale et donc on est en train de mettre les bouchées doubles pour être vraiment totalement intégré dans avec ces quatre environnements et que les pull requests ça soit automatiquement décoré, qu'il n'y a rien à faire et qu'on ait l'information qualité. Donc je pense que là il y a beaucoup de choses en ce moment qui jouent autour des pull requests. Et d'ailleurs, même si on parle du code coverage, c'est directement sur la pull request où on devrait savoir sur le nouveau code qui est lié à cette pull request quelle est la couverture de code. Enfin, il y a déjà ce genre d'intégration qui existe, mais ça devrait être poussé beaucoup plus loin. Quoi.
Mmh. Oui, en automatique. De toute façon, enfin, ça reste le truc, c'est que cette démarche qualité, le but, c'est surtout que le code de mauvaise qualité n'arrive pas dans le master. Donc effectivement, exact. Faut que ça soit bloqué au mieux. Normalement, il est censé être bloqué via l'IDE, enfin via le développeur lui-même et son IDE, puisqu'il lui-même doit pas l'injecter. Et effectivement, dans une démarche de contribution, de collaboration via pull request, nous c'est ce qu'on fait tous les jours. J'imagine que c'est pareil chez vous, chez SonarSource, mais chez CloudBees c'est pareil. Nous tout passe par pull request dès qu'on code quoi que ce soit. Ça finit par une pull request qui est revu par nos pairs chez CloudBees ou dans la communauté de Jenkins, ça dépend de ce qu'on code. Ouais. Et effectivement, c'est l'occasion de discuter de ce qui est fait, de comment c'est fait. Et c'est vrai que c'est là où on a besoin d'avoir ces retours d'information sur la qualité et sur tout ce qui va bien. Donc c'est vrai qu'il faut l'empêcher. Et c'est vrai qu'on voit bien. Enfin, nous on le voit bien au niveau de Jenkins pour le coup. Nous on est au milieu de tout ça et donc c'est vrai qu'on voit bien l'intégration avec tous ces outils là. C'est ce que tout le monde fait, c'est ce que tout le monde fait dans ce cycle de développement et pour pouvoir justement automatiser, comme tu le disais, facilement la revue, automatiser les contrôles qualité, automatiser le feedback, la feedback loop pour qu'elle soit la plus efficace possible et qu'on puisse contribuer et mettre le code en prod le plus facilement avec une qualité qui est vérifiée ou vérifiable dans les deux cas.
Tout à fait, je ne dirais pas mieux.
Ouais, donc SonarSource, donc ouais, moi je vous connais depuis longtemps, donc effectivement, avant SonarSource, techniquement.
Exact.
Exact. Je me rappelle même très bien du sonar.ortiz.ch, qui devait de mémoire être donc là où au tout début vous hostiez, je pense la doc, enfin le truc, voilà, je me rappelle de tout ça. Donc là, tu nous disais tout à l'heure, c'est 70 personnes. Ouais. Donc, c'est donc énorme. Enfin, voilà, quand on voit en quelques années la croissance, pour finalement quelque chose au début. Donc, c'était un petit outil. Vous avez tout misé sur cette approche qualité, comme tu le disais. T'étais parti de l'idée là de ce qu'avait dumpé Vincent dans une page wiki, se dire, ouais. Ça serait bien tous ces rapports de tout mettre dans une base, dans un machin, hop hop hop, et puis on fait des reports, et puis hop, voilà, on a tout ça. Et puis, vous avez implémenté. Cette idée, ça vient d'où finalement entre le Sonar Source, l'idée de création donc autour de l'outil Sonar, qui était même pas Sonar Cube à l'époque, qui était Sonar, et aujourd'hui donc en 2018, c'est quoi la raison du succès, parce que je pense que quand même c'est un succès. Enfin d'ailleurs, enfin on entend beaucoup parler de vous, j'entends pas trop parler. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des effets de réseau et tout ça qui font que j'entends pas trop parler de la concurrence. Mais bon,
ça doit aider.
J'imagine qu'il y en a un petit peu quand même sur votre domaine. C'est quoi qui fait le succès aujourd'hui de la story Sonar Source et des petits cocorico français, parce que enfin franco-suisse.
Ouais, tout à fait. Alors c'est le fait est que la structure est suisse pour des raisons sur lesquelles je vais pas revenir aujourd'hui, mais les trois fondateurs sont bien français, donc une nouvelle fois Simon, Olivier et moi-même. Bon, sur les raisons du succès, c'est toujours un petit peu compliqué parce que dans le succès notamment d'une société, il y a toujours un petit peu le hasard qui fait bien les choses. Il y a toujours également le fait d'arriver avec un outil au bon moment, parce que la même idée 5 ans plus tôt ou 5 ans plus tard, c'est trop tôt ou c'est trop tard. Mais au-delà de cette alors nous, ce qui nous a aidé aussi pour se dire les choses telles qu'elles sont, c'est ce marché de la qualité du code, il est pas très sexy en fait. C'est-à-dire que développer un outil d'analyse, notre chance, c'est qu'il n'y a pas finalement beaucoup d'acteurs. C'est-à-dire que on va trouver, si on parle de CC++, on va trouver des Coverity, des Cloudwork. Si on parle, donc dans le monde open source, il y a pas mal de solutions. Donc en effet, en Java, les Findbugs, qui est d'ailleurs forqué en Spotbugs là maintenant. Dans le monde C-Sharp, il y a Microsoft là d'ailleurs qui a développé un super front-end C-Sharp VB.NET là, qui est open source désormais, donc on va dire le compilateur est open source et ça permet à chacun de développer des moteurs de règles. Donc il y a également pas mal de moteurs qui sont disponibles. Mais ceci dit, il n'y a pas une profusion d'outils et de compétiteurs. Donc, ce qui a fait un petit peu notre chance, et tu nous connais, moi, Olivier et Simon, on n'est pas les gens les plus brillants, intelligents de la planète, etc. Je veux dire, nous, nos valeurs, c'est plus le pragmatisme. On a tendance à rien lâcher. On va jusqu'au bout de nos idées, on se donne les moyens, on s'interdit pas de rêver, et mine de rien, c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire, de se dire, bah oui, ce qui nous semble impossible maintenant, bah on va quand même essayer de le faire, là, pour puis on y sera dans 2 ans. Donc avec ces valeurs-là, un petit peu de pragmatisme, d'humilité, etc. Et puis en l'absence de compétiteurs trop agressifs, bah on a réussi à construire notre outil. Alors le fait est qu'il y a ce business model également, donc le fait d'être open source, d'avoir 80% de ce qu'on fait qui est disponible gratuitement, utilisable par tout le monde, ça fait qu'en termes de marketing, on a eu une adoption massive, et c'est beaucoup plus simple ensuite pour générer du business à partir de là. Donc, bah, comme bien souvent quand c'est comme ça, il n'y a pas de règle d'or, il n'y a pas de réponse simple, et l'ensemble de ces éléments là ont fait que ça se passe plutôt bien, et puis qu'aujourd'hui on est capable de rêver de choses encore plus grandes, encore plus folles, quoi.
Non, ça reste impressionnant dans le sens où sur la partie développement, sur la partie, enfin c'est quand même souvent le terrain du pauvre, enfin on le voit bien sur enfin les entreprises, autant enfin généralement elles veulent pas investir d'argent sur la partie développement, sur le, voilà, donc non, tu utiliseras Eclipse, je vais pas payer ta licence IntelliJ.
Oui.
Non, je vais pas te payer, je vais pas acheter de support chez Gradleware pour maintenir ton build, non, tu te débrouilles, etc. Donc c'est vrai que c'est là-dessus.
Ceci dit c'est quand même en train d'évoluer, ça, hein, parce que il y a quand même une nouvelle génération de managers qui arrivent, j'allais dire, au pouvoir, qui ont généralement une culture plus proche de la nôtre, qui ont éventuellement un background développeur, et qui ont cette connaissance finalement intuitive de l'importance d'avoir un outillage de développement performant, réactif, et s'il faut des écrans 21 pouces, et s'il faut 64 gigas de RAM, ben on va te les donner, s'il faut 2 écrans, ben tu vas avoir 2 écrans, et alors évidemment c'est un peu idyllique ce que je suis en train de décrire, mais pas tant que ça, je veux dire, y a quand même beaucoup de sociétés dans lesquelles les développeurs ont désormais les moyens, donc ça change, et puis bah ça change en notre faveur, parce qu'en fait c'est de plus en plus de gens qui veulent se donner les moyens, et puis se donner les moyens, ça peut être faire quelque chose avec son ressource.
Et sur toute cette partie-là, parce que tu disais, bon, il y a les fameuses 4 axes sur lesquels on parle de qualité de code. Est-ce que l'aspect, ouais, parce que finalement, ce qu'on voit beaucoup ces dernières années, il y a quand même le risque du gros méchant monsieur sécurité. On a quand même, souffert de, et on souffre de plus en plus, et on souffrira de plus en plus de toute façon, hein, des problématiques de sécurité. Ça devient maintenant à la une des journaux quasiment tous les 3 matins il y a une nouvelle faille, un nouveau machin, etc. Je pense que donc il y a aussi une prise de conscience sur cet aspect sécurité qui est donc généralement derrière lié à la qualité du code. Hein. Si les applis étaient bien faites, il n'y aurait pas de trou de sécurité. Mais donc est-ce que ça aussi ça aide à faire ouvrir les yeux, et donc que ça soit, enfin je parle même pas là de Sonar, l'entreprise pour gagner de l'argent, mais le monde effectivement de la qualité, est-ce qu'il en bénéficie finalement, est-ce que ça aide à vendre le fait que c'est nécessaire de prendre soin de son code, prendre soin de tout son parc de développement.
Ouais, j'irai pas jusque là en fait, et d'ailleurs pendant longtemps on est resté que sur la partie maintenabilité, et on a réussi à se développer uniquement sur cette partie là, et on se fait une règle d'or de pas commencer à faire peur à nos prospects éventuels en disant vous devez utiliser SonarCube, SonarCloud parce qu'autrement le ciel va vous tomber sur la tête et vous allez rencontrer des vulnérabilités qui vont mettre en péril votre business, etc. On n'a pas envie de tomber là-dedans. En même temps, le fait est que partant de ce domaine de l'évaluation de la maintenabilité, ben on est rentré sur le domaine de l'évaluation de la fiabilité, donc tout ce qui est détection de bugs. Et en ce moment, on est en train de mettre les bouchées doubles sur la partie vulnérabilité. Et typiquement, si on parle de vulnérabilité, les leaders actuellement en termes de solutions, c'est Checkmarx et Fortify, qui a été racheté par Microfocus là récemment, racheté à HP. Donc ça, c'est les deux grands leaders là. Et typiquement, c'est le marché là sur lequel on est en train de mettre les bouchées doubles. Là. C'est un de nos doux rêves. Là. Parce qu'en fait, enfin là, on parle plus de stratégie produit. Ça existe quasiment plus maintenant les sociétés qui utilisent qu'un langage de programmation. T'en utilises 1, 2, 3, 4, 5. Et généralement, t'as pas envie d'utiliser 5 produits d'évaluation de la qualité du code. T'as envie d'en utiliser qu'un. Et de la même manière, une fois que tu prends conscience de ces 4 axes, maintenabilité, fiabilité, sécurité et puis la partie légale, t'as pas forcément envie d'utiliser un outil pour chaque axe. Donc un des éléments clés de notre stratégie produit, c'est couvrir un max de langage et sur ces 4 domaines. Donc quand on parle de langage, on en couvre 20, mais il y a des langages qui manquent à l'appel. Hein. Chez nous, Go, Scala, Rust, c'est pas encore couvert. Donc là, on est en train de travailler dessus. Et puis je te disais la partie sécurité. Donc, mais pour revenir à ta question initiale, autant ça fait partie de notre stratégie produit, autant pour nous, la partie sécurité et les risques opérationnels induits, on veut pas que ça serve de prétexte à adopter les outils d'analyse de code, quoi.
Non, mais ce qui est rassurant, c'est que tu dis qu'effectivement, ne serait-ce que les aspects maintenabilité, etc., c'est suffisamment vendeur, ça intéresse suffisamment les entreprises pour effectivement développer ce marché. C'est effectivement pas la peur de la sécurité
qui
met ça.
Alors après, tu vas continuer à trouver des managers qui ne comprennent rien et sur la partie test unitaire, voire même sur la partie intégration continue. Mais bon, bah quand c'est comme ça, faut être patient. un jour la page est tournée.
C'est ça. Quelque chose que je voulais discuter avec toi aussi, c'est que bon, faisant partie du monde des conférences, j'ai vu un certain nombre de tes talks, même reçu certaines de tes propositions, où effectivement tu présentes SonarSource, donc l'entreprise, donc tu disais vous êtes 70,
ouais,
comme alors une société un peu bizarre où règne l'holacratie, où en finalement bah vous essayez d'éviter trop de niveaux de management, voire le management, que les gens se... C'est vraiment possible, ça? Enfin, c'est un sujet qui m'intéresse parce que voilà, on parlait tout à l'heure de comment se gèrent les projets, les équipes. Mais donc, bon, toutes ces choses-là, ça se gère au niveau d'une entreprise. Comment vous arrivez, donc, finalement, dans une entreprise comme Sonar? Donc, aujourd'hui, je sais pas combien vous avez de produits, mais 3-4 produits facilement à développer. 70 personnes? Comment ça se vit?
Ouais. Déjà, avant de histoire de faire dégonfler un tout petit peu la baudruche ou les attentes, SonarSource c'est une SA, il y a des actionnaires, il y a un conseil d'administration, il y a un CEO, il y a même un investisseur, parce qu'il y a un investisseur américain là, qui a mis 45 millions d'euros sur la table là, il y a un an et demi. Donc de ce point de vue-là, on est une société tout ce qu'il y a de plus classique dans un monde capitaliste et c'est quelque chose qu'on assume. Hein. Ce à quoi on croit, c'est d'avoir des équipes qui sont au maximum autogérées, même si l'autogestion, pour moi, c'est un peu une quête du Graal, quoi. C'est un cheminement permanent. Et quand on y arrive, tout d'un coup, il y a un petit grain de sel qui fait qu'on refait deux pas en arrière, mais on est dans cette volonté-là. Donc, en effet, chez nous, il n'y a pas de chef de projet, il n'y a pas de tech lead, il n'y a pas d'architecte. Typiquement, quand on parle des équipes de développement, il y a juste soit t'es développeur, soit t'es ce qu'on appelle product manager. Et dans product manager, d'ailleurs, même le terme manager est trop, parce qu'en fait, on n'est pas là pour manager les gens. Il n'y a aucun niveau hiérarchique. On est là pour travailler ensemble. Et le product manager, il est là pour juste faire ce que les développeurs généralement n'aiment pas faire. Aider à la spécification, animation de la communauté, aider à la validation, etc. quoi. Donc on travaille pour avoir des équipes qui soient autogérées, et notre volonté c'est qu'en fait chaque sonar sourceur ait la capacité d'impacter vraiment de manière significative son environnement de travail, le produit sur lequel il travaille en fait. Et donc en effet il y a pas de mid-management. Alors après alors il y a des termes d'entreprise libérée, holacratie, etc. qui qu'on le vend en poupe en ce moment. De nouveau, en même temps, on est des pragmatiques, hein, et une entreprise libérée, des équipes autogérées, pour être tout à fait honnête, ça peut aussi être l'enfer sur terre, quoi. Parce que en fait, ça demande à avoir des gens qui ont un niveau de maturité relationnelle qui est super important. C'est-à-dire que typiquement, si t'as un nombre trop important de collaborateurs avec un manque de connaissance de soi-même, qui sont trop drivés par leurs propres émotions, qui arrivent pas à les contrôler, ça peut être hyper violent pour les gens autour d'eux, ça peut être hyper douloureux. Et donc il y a un an, on a démarré un projet, ce qu'on appelle d'intelligence collective, Smarter Together, accompagné d'ailleurs par une personne sur Genève là. C'était une des premières fois, pour la petite anecdote, que j'étais vraiment impressionné par un consultant. J'avais encore cette image vieillissante du consultant qui est là juste pour faire plaisir à son client. Eh ben là, on en a eu pour notre argent. Et en fait, tout l'objectif de ce projet d'intelligence collective, c'est de faire prendre conscience à l'ensemble des sonars sourceurs des difficultés de communication entre nous, et puis d'avoir des relations qui soient plus efficaces, plus apaisées, etc. Parce que finalement, la plupart du temps, un manager, ça sert à quoi? Ça sert justement à gérer tout le bruit relationnel dans les équipes. Donc ça joue les pompiers en fait. Un tel s'est vexé, donc je vais aller le trouver. Un tel se comporte mal avec les autres, mais les autres osent pas lui dire. Et c'est tout le rôle du manager, jouer les pompiers. Donc s'il y a aucune douleur, il n'y a pas forcément besoin. Il n'y a pas forcément besoin de manager. Donc on est dans cette tendance là. Et de nouveau, hein, après on reste une SA avec un capital, des actionnaires, etc. Donc on reste pragmatique.
Donc au fait, c'est opportuniste, c'est une volonté que vous avez, c'est opportuniste parce que vous en avez peut-être aussi la chance d'avoir des gens, d'avoir embauché les gens qui vont bien pour le faire.
Ouais, oui, d'ailleurs, juste pour la petite information qu'on est qui est pas si petite que ça, c'est qu'en fait maintenant on recrute les gens en évaluant leur capacité justement à totalement embrasser cette culture-là. Donc si les gens, quelle que soit leur capacité technique, on voit qu'ils ont une connaissance d'eux qui est assez faible, qu'ils ont un niveau d'énergie intrinsèque qui est faible, on va pas les embaucher. Donc c'est évalué, parce qu'autrement on n'est pas là pour reformater les gens, quoi.
Ouais, non, et puis ça marchera pas surtout. Donc effectivement, pour gérer cette croissance. OK, bon, c'est intéressant, c'était vraiment quelque chose que je voulais savoir un peu plus. C'est vrai que c'est des choses que, en tant que manager, bon nombre d'entre nous ont généralement à gérer. Et comme tu le dis, c'est vrai qu'on fait surtout les pompiers et les psychologues pour gérer les uns et les autres, et puis savoir qu'est-ce qui va pas et comment que je vais essayer de... bien sûr qu'on fait d'autres choses, hein, mais... Et c'est vrai que ça fait une bonne partie.
Non, mais typiquement, moi-même, je l'ai fait chez SonarSource, mais au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que c'est réellement ça que j'ai envie de faire? Mais non, mais moi, j'ai envie de m'éclater sur le développement du produit, point, quoi.
Personne ne veut le faire, c'est ça. Mais c'est ça, il faut trouver des gens qui s'entendent et qui... Après, c'est pareil, je pense que vous êtes tous colocalisés, ou quasiment tous, je crois, dans les 70, vous êtes dans les mêmes bureaux, pas loin.
Ouais, alors, il y a une majorité de gens qui sont sur Genève. On a également un bureau en France, on a également des gens qui sont en remote, on est en train d'ouvrir un bureau à Austin. Donc on n'est clairement pas une société qui est aussi distribuée que CloudBees, par exemple. Mais mine de rien, quasiment tous les meetings, de toute façon, se font via... se font en ligne, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est remote, quoi. Le fait qu'il y ait une majorité de personnes ensemble, ça aide quand même à garder une forme de cohésion. Je te l'accorde.
C'est après, puis les cultures, même si vous avez beaucoup de personnes de cultures différentes, c'est vrai que si elles sont colocalisées, c'est vrai qu'après, enfin, c'est des choses aussi qui existent dans les entreprises. Je sais que moi, chez CloudBees, on est effectivement très très distribué sur le monde, et donc obligatoirement les cultures sont différentes. Il y a plein de contraintes qui font que c'est aussi pas naturel pour les gens de bah voilà de réussir à trouver des terrains d'entente naturellement, de se comprendre les uns les autres. C'est vrai que c'est voilà fait, et encore nous chez Claude B, franchement je me plains pas, ça se passe très bien, on a franchement ça se passe bien, mais je me rappelle après voilà si on retourne dans mes années CS2I etc, ou quand on commence à travailler avec des gens à l'autre bout du monde, bah des fois c'est compliqué parce que les cultures sont différentes, les attentes sont différentes, il y a plein de choses. Donc c'est vrai que on en revient, bon, quand on fait un projet, quand on fait des développements, il y a pas que le code, il y a la qualité du code, bien sûr ça joue, mais c'est surtout les gens, c'est sur les gens qu'il faut investir, et c'est là-dessus qu'il faut réussir à faire que bah que ça prenne et qu'on arrive à avoir une cohésion et que tout le monde travaille ensemble.
Et particulièrement quand t'es éditeur logiciel et que l'innovation c'est ce qui va garantir ton business dans 2 ou 3 ans. Je veux dire, l'innovation, ça se, il y a pas de méthodologie, quoi. Je veux dire, c'est avant tout au niveau de chaque personne dans la société, leur capacité justement à faire émerger des nouvelles idées. Puis nous, c'est un produit à destination des développeurs. Donc nous, forcément, les développeurs chez nous sont les mieux placés pour faire émerger des nouvelles idées, quoi. Donc ça fait encore plus sens en fait quand on est éditeur logiciel, quand l'innovation c'est un élément clé pour la société, d'avoir ce genre d'organisation un petit peu à plat, quoi.
Ok. Bon, j'ai gardé pour la fin les sujets qui fâchent. Donc après, on peut parler de qualité pendant des heures, on peut parler de démarche qualité pendant des heures. On peut batailler effectivement sur la place des parenthèses et toutes ces choses-là, l'intérêt pour l'ensemble. Mais c'en a. Si la parenthèse est pas mise au bon endroit, c'est pas toujours simple de s'y retrouver et ça peut créer des soucis. Et ou alors si on formate le code, hein, à chaque fois qu'on commit, je pense qu'on connaît tous cet aspect-là et qu'on a déjà tous eu envie de tuer des gens. Mais les sujets qui fâchent. Donc dans la qualité, moi, il y a quelques sujets quand même qui sont pas faciles finalement à évaluer comme ça. C'est notamment la partie test. Bon, la partie test automatisée, comme tu disais, ça reste un prérequis. Enfin voilà, mettre une démarche qualité. Si devant ça, t'as pas mis au minimum une certaine couverture de test, une certaine démarche de test automatisée, bah effectivement, ouais, tu vas remplacer des nuls pointeurs exceptions par d'autres, ou tu vas changer. Ouais. Donc bon, tu vas tout casser. Bon, les tests, d'un autre côté, aujourd'hui, on est capable d'en automatiser certains. On voit qu'il y a le mutation testing ou tout un tas de trucs comme ça qui vont permettre de créer tes tests automatiquement, de valider après bon des catégories de tests. Il y en a plein, les tests fonctionnels, d'intégration, unitaire, etc. Est-ce qu'on doit tout tester? C'est quoi? Parce que finalement, ouais, ok, il y a Sonar, il va me dire, ah, c'est super, t'as 80% de couverture de tests.
Ouais.
C'est bien, c'est pas bien. Je dois tout tester, je dois pas tout tester. Est-ce que je dois tout tester en unitaire? Est-ce que si tout est en test d'intégration? Bon, finalement, c'est bien joli les pourcentages de nous dire faut des tests et puis faut des pourcentages, mais bon, dans la réalité, faut faire quoi?
Ok, donc là et là il y a deux questions en fait. La première, c'est sur finalement la pertinence de tout tester, et la deuxième question c'est sur la valeur d'une information de couverture de code, et tu mentionnais par exemple par rapport à de la mise en œuvre de mutation testing. Sur la première partie, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de tout tester? Bon, à ce niveau-là, je vais parler, c'est plus ma propre expérience. Forcément, chez nous, on fait du dogfooding en interne sur l'ensemble de nos produits. Et au départ, on avait cet objectif également de dire 80% de couverture de code, parce que finalement, c'est ce qu'on recommande, donc pourquoi pas. Eh ben, figure-toi que chez nous, c'est les développeurs eux-mêmes, au bout d'un moment, qu'on dit, non mais c'est pas assez, là. Nous, ce qu'on veut, c'est 90%. Et donc, désormais, on a une instance, notre instance de dogfooding SonarQube, qui est disponible en ligne, s'appelle next.sonarcube.com, et on voit tous nos produits, enfin les produits open source, et on voit la couverture de code, et les analyseurs Java, SonarQube, etc., on voit que le niveau de couverture, il est super important. De nouveau, quand on croit aux approches DevOps, à la nécessité de pouvoir partir en production quand on veut, bah pour moi en effet quasiment tout doit être testé. Alors après à la marge, est-ce qu'on doit tester le cas marginal de l'exception qui n'est jamais censée se produire, etc. Non, et faut rester pragmatique, mais je pense que normalement, mis à part ça, oui, normalement tout doit être testé. Et après, une fois qu'on a dit tout doit être testé, on se dit bon bah très bien, donc il faut 80 à 90% de couverture de code. Mais qu'est-ce que veut dire 80 à 90% de couverture de code? Et là, on a des débats animés avec Nicolas Frankel, par exemple, qui est un ami, mais qui vient régulièrement me savonner la planche à ce niveau-là. Parce que 80 90% de couverture de code, ça ne veut rien dire. Et là-dessus, on est d'accord, c'est-à-dire que ça ne veut rien dire. Par contre, et de la même manière d'ailleurs, si SonarQube dit il y a pas de bug, il y a pas de vulnérabilité, d'un point de vue maintenabilité, tout est au vert, qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça veut juste dire qu'au regard de la puissance actuelle des analyseurs SonarQube, on n'a pas réussi à détecter de problèmes de maintenabilité, fiabilité et sécurité qui sont connus. C'est tout ce que ça veut dire. Ce qui a de la valeur finalement, c'est quand c'est pas vert. Ce qui a de la valeur, c'est quand sur la couverture de code on est à 20%, ben, ça veut dire qu'on est à 20% et qu'on a un problème. Alors d'autant plus si c'est la couverture sur le nouveau code, qu'on vient de faire un sprint, on a produit 10 000 lignes de code et qu'on a 20% de couverture de code. Ben là, il y a de la valeur, en fait. Parce que là, on sait qu'il faut faire quelque chose. Et de la même manière que si SonarQube dit qu'il y a 3 bugs bloquants sur le nouveau code, ben faut faire quelque chose. Alors, donc pour moi, la valeur, c'est avant tout quand quelque chose qui se passe mal. Et en effet, quand on est à 80-90%, ben on peut rien en déduire. Ceci étant, généralement, quand on est à 80-90% et qu'on arrive à s'y maintenir, il y a de grandes chances qu'il y ait des pratiques de test-driven development qui soient en place et que, bon, dans les faits, les codes soient à peu près de qualité. Ceci étant, le nirvana, c'est en effet le mutation testing. Parce que le mutation testing, il va pouvoir dire, non seulement t'es à 90%, mais en plus, les tests sont pertinents. C'est-à-dire que le mutation testing, c'est l'outil va légèrement modifier le code, donc va remplacer, dans une expression booléenne, va remplacer un et par un ou, et en faisant cette modif, il s'attend à ce qu'il y ait au moins un test unitaire qui plante, et si c'est pas le cas, il va dire non mais les tests sont pourris, et là faut absolument faire quelque chose. Et donc à ce niveau-là, le mutation testing, il apporte énormément de valeur, parce qu'il permet de dire, non seulement t'es à 80-90%, mais en plus, les tests sont pertinents. Le seul problème du mutation testing, c'est jusqu'à preuve du contraire, c'est compliqué d'automatiser totalement toute la démarche de mutation testing. C'est-à-dire que c'est encore un outillage et une méthodologie qui génère un niveau de bruit qui est trop important pour avoir une automatisation complète. C'est quelque chose qui nécessite d'analyser, de filtrer les faux positifs. Donc ça peut être fait, je dirais même ça doit être fait de temps à autre, mais ça ne peut pas faire partie intégrante de la chaîne totale d'intégration continue et de build. Donc mutation testing versus coverage, j'ai tendance à dire non mais la chose la plus importante, c'est d'abord d'avoir un bon niveau de couverture. Une fois qu'on a ce bon niveau de couverture et qu'on est capable de le maintenir, eh ben oui, faites du mutation testing, faites des audits ponctuels, mais faites-les avec parcimonie, parce qu'en même temps le mutation testing, là pour le coup, ça a un coût de mise en œuvre, quoi, dans l'effort d'analyse.
Ok, donc tester, automatiser, ensuite le coverage, ensuite potentiellement des alternatives, des approches plus poussées telles le mutation testing, ouais. Et puis surtout le suivi au fur et à mesure du temps. Ce que j'imagine, c'est qu'au final, parce que 80% ou 80%, enfin c'est ce que tu dis, on s'en fiche, ça a pas de valeur, enfin c'est, tout est critiquable sur ces indices là, toutes ces... Après, ce qui est important, oui, c'est de le suivre au fur et à mesure du temps. C'est pas l'instantané, c'est pas le maintenant. C'est ce que tu dis depuis le début. C'est si tu chutes en introduisant du code, bah oui, effectivement, c'est que t'as un problème, parce que là, bah t'as voulu aller trop vite et bon, bah t'as livré un truc qui est potentiellement pas de qualité. C'est là où effectivement tu as un levier, et c'est effectivement pas le fait de se dire ouais bon bah c'est 80 ou 80%, non, c'est le fait de passer de 80 à 70, là j'ai un problème.
Tout à fait. Et d'ailleurs, quand je parle de 80, 90, 70, etc., je parle du nouveau code, hein. Je parle pas sur l'ensemble de l'appli, parce que généralement si on part d'une appli qui est à 5%, pour l'amener à 80%, faut se lever tôt. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a Vincent, il a une autre pratique en place qui est peut-être un tout petit peu plus fine. Lui, ce qu'il dit, c'est quand on introduit du code, on ne doit pas diminuer la couverture de code. Donc même sur du nouveau code, l'objectif c'est pas 80%, c'est de ne pas faire pire qu'avant. Donc si avant on était à 30%, bah on fait au moins du 30%. Donc un peu l'approche Boy Scout et peut-être un tout petit peu moins agressif que de se dire sur tout nouveau code, bam, on tape la barre, quoi.
D'accord. Ouais, on diminue pas la qualité existante, bon, quitte à ce qu'on puisse pas faire des miracles et la faire grimper énormément, mais au moins, on va pas à l'encontre, on va pas pénaliser la qualité existante.
Et d'ailleurs, juste pour terminer sur le mutation testing, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Nicolas, parce que même le mutation testing, c'est pas la quête du Graal, parce qu'en fait, le mutation testing va te dire si en effet les tests sont pertinents. Mais on peut très bien avoir une application de 70 000 lignes de code qui est couverte par 3 tests qui sont bien entendu pas des tests unitaires mais des tests d'intégration. Peut-être mieux d'avoir des tests unitaires également, quoi. Donc mutation testing, ça va pas dire à quel point les tests sont unitaires ou sont des tests d'intégration, quoi.
C'est ça le problème, c'est qu'au final, c'est toutes ces notions de couverture, ça remplace pas l'humain, l'humain qui va être capable de juger de la qualité du test, parce qu'un test unitaire qui fait des asserts trous, ça marche aussi très bien, et donc tu peux avoir une couverture à 100% en testant rien du tout. Ça, je l'ai pas dit, hein, si vous le saviez pas, mais effectivement, on peut facilement tricher sur ce genre de truc.
Ah mais clairement. Sauf que de nouveau, si on a un mécanisme, tout un processus de code review en place, les pull requests, d'ailleurs le première tentative de faire un assert trou, gars, il doit sentir la balle passer, quoi. Donc c'est là que c'est important d'avoir une approche qui mixe l'analyse automatique et la revue.
La revue, l'humain. Ouais. Et donc pour aller plus loin, donc effectivement là on parlait de couverture de tests, etc. On parle aussi de tests d'intégration. Alors c'est vrai que bon, une application c'est sympa, mais généralement ça se limite pas à quelques classes ou à une librairie, mais on développe aujourd'hui des applications complexes. Ouais. Et puis bah on parle par exemple de microservices. Donc alors là on en est à des mondes où effectivement on a plein de petits trucs qui vivent un peu partout, qui ont des interfaces, qui se causent ensemble et tout. D'où l'intérêt dans ces cadres-là d'avoir beaucoup aussi de tests d'intégration pour vérifier que ces trucs-là sont pérennes au fur et à mesure du temps. Mais des architectures applicatives, il y en a des tonnes. Il y en a des bonnes, des mauvaises, des qu'on sait pas. Est-ce que finalement, si tu fais du code propre, mais que derrière ton architecture, elle suit pas, est-ce que ça vaut le coup, tout ça? Est-ce que finalement, ces outils-là ont aussi quand même capacité à valider ton architecture? Enfin, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que, moi, je m'assure que, ok, mon équipe, elle a codé du code. Ah, il est super beau. Mais en fait, en termes d'architecture, en termes de, le design de l'application, de manière générale, il est pauvre, et donc en prod, une fois que ça appartient en prod, ça va juste faire boum. Ça va être du beau code qui va faire boum, c'est tout.
Tout à fait. Parce qu'en effet, à ma connaissance actuellement, il n'y a aucun outil d'analyse statique du code qui permet d'évaluer vraiment la qualité d'une architecture ou d'un design. Alors tu vas trouver des outils comme Structure 101, SonarJ également, rien à voir avec notre environnement, qui permettent de définir des couches logicielles, qui permettent d'associer ces couches logicielles à des packages, si on prend l'exemple de Java, et qui permettent de renforcer comme ça des règles d'architecture. Mais ceci dit, en termes de reverse engineering, ça te permet pas de savoir si globalement ton architecture, ton design est bon. Alors après, la question c'est qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'architecture? Est-ce que c'est la qualité du code? En fait, la réponse simple c'est tout est important. En fait, de la même manière que si t'as une très bonne architecture, très bonne qualité du code, mais qu'en entrée t'as des specs fonctionnels qui sont merdiques et que tu fais du développement qui sert à rien. T'es pas plus avancé, donc oui, c'est un petit peu systémique, c'est-à-dire que t'as plein d'éléments qui peuvent participer au fait qu'au final le projet est un échec. La qualité intrinsèque du code, c'est juste un élément. Par contre, je pense pas. Alors hormis ce que j'ai dit au départ, qui était de dire pour commencer à s'intéresser à la qualité du code, il faut d'abord l'intégration continue en place, traçabilité fonctionnelle et une gestion de configuration digne de ce nom autour du code source. Une fois que ça c'est en place, pour moi, après, tout est important, quoi. Oui, il faut prendre soin de l'architecture. Oui, il faut prendre soin de la qualité du code. Oui, les spécifications doivent tenir la route. Mais pour moi, il y a pas d'ordre, quoi. Après, parce qu'avoir une architecture qui est parfaite et le code qui est pourri, c'est pas mieux.
pour terminer finalement dans cette série sur les choses un peu délicates et les langages, donc finalement tu disais au début, donc là aujourd'hui vous êtes quoi, capable de gérer une vingtaine de langages, quelque chose comme ça, avec Sonar. Est-ce que finalement l'intérêt de ce type d'outils, est-ce que c'est linéaire par rapport au langage lui-même, c'est-à-dire que il y a des langages plus ou moins structurés, il y a des langages qui, par nature, sont plus ou moins organisés. Est-ce que finalement, ce type d'outil a le même apport? Imaginons que je fasse une appli front-end avec du JavaScript, beau JavaScript avec des NAN partout.
Ça existe pas, le beau JavaScript. Ah,
d'accord, voilà. Donc,
oui, avec des NAN partout, je suis d'accord.
Avec des NAN partout. Est-ce que donc finalement, il y a quand même un rapport, on disait que bon, Java avait quand même eu tendance à lancer ce truc-là. Mais finalement, aujourd'hui, donc voilà, sur votre expérience d'une vingtaine de langages, est-ce que des langages récents à la Go, Rust, TypeScript, qui sont d'ailleurs plus modernes, vont avoir plus de facilité, ou par défaut, on va d'ailleurs faire du code plus propre, ou ne vont pas permettre de faire des choses tordues? Est-ce que voilà,
Ouais, il y a clairement une bonne tendance là. Si on prend l'exemple de TypeScript, Go et Rust dont tu parlais, c'est des langages qui sont beaucoup moins tolérants. Je vais te prendre un exemple qui est un peu caricatural, mais enfin caricatural non, ça ne l'est pas en fait. En Java, tu fais un if à un moment donné et puis ton bloc c'est uniquement un statement, donc tu mets pas d'accolade, ok? Et on a une règle. Qui vérifie dans ces cas-là que le troisième statement qui suit, il est pas indenté au niveau du deuxième, parce que quand tu lis le code, t'as l'impression qu'en fait les deux statements sont conditionnels alors qu'ils le sont pas. Bon bah typiquement un truc comme ça en Go, ce n'est pas possible en fait. T'as un autre exemple de règle, c'est pareil en Java, tu fais un if t'as des accolades, et puis il y a un deuxième if que tu mets dans la prolongation de l'accolade fermante du premier if, comme si c'était un else if, et c'est hyper misleading, donc t'as une règle là qui te détecte ça. Bon, bah pareil, en Go, c'est pas possible en fait d'injecter du code pourri comme ça, et c'est une très bonne chose. Donc en fait, c'est des langages qui sont moins tolérants, ceci étant, c'est toujours des langages qui sont exposés à des cas de, par exemple, des dead store avancé, c'est-à-dire dead store, à un moment donné, t'as une variable, tu lui assignes une valeur, et en fait, t'en fais rien de la valeur, t'en fais rien, ou tu lui assignes pour l'écraser trois lignes plus bas. Pourquoi? Ça, c'est clairement du code smell d'ailleurs qui, de temps à autre, peut s'avérer être des bugs. Donc, pour détecter ce genre de dead store, t'as toujours besoin d'analyse de code. De la même manière qu'un langage comme Go, Rust, TypeScript, si tu fais un enchaînement de conditions, et puis que dans un if-else-if, tu retrouves deux fois, par exemple, la même condition, le langage va rien te dire, quoi. Donc, pareil, dès que tu commences à toucher sur des code smell, des bugs un petit peu avancés, quel que soit le langage, il y a des risques en fait. Donc c'est bien, les langages sont moins permissifs, mais ça enlève pas la nécessité d'utiliser des outils d'analyse de code.
D'accord. Bon, donc en gros, je peux quand même continuer avec mon Java. J'ai le langage qui va bien, et bon, c'est pas parfait, mais ça reste. Ok, bon, ça va. Ouf.
Ne change rien.
Ah, j'ai eu peur qu'il fallait que j'apprenne Go. Oh là là, au secours. Bon. Pour terminer, aujourd'hui, on parle beaucoup de machine learning, deep learning. Donc aujourd'hui, on voit bien les Google et autres, les machines, elles apprennent toutes seules. Il y a plein de choses qui se font tout seules. Demain, est-ce que je vais être capable finalement, avec des outils comme ça, de corriger le code tout seul, et puis finalement, j'écrirai n'importe quoi et ça va me faire quelque chose de propre, ou est-ce que non, finalement, il y a quand même toujours un besoin d'avoir un cerveau?
Dans tous les cas, j'espère qu'on aura toujours besoin d'avoir un cerveau, Et le fait que demain les outils d'analyse statique comme ça soient capables de produire eux-mêmes du code, j'y crois qu'à moitié. Ceci dit, sur la capacité en fait de tirer parti d'un outillage de machine learning pour aller détecter des problèmes qualité, c'est un sujet en effet qu'on a commencé à travailler là chez nous. On commence à avoir l'embryon d'une équipe de scientifiques là. Ça nous a pris du temps parce qu'en fait on est que des ingénieurs et on a horreur des gens qui ont un doctorat là. Et donc on a dû apprendre à à s'apprivoiser les uns les autres. Pour revenir au machine learning, en fait, et puis là je vais répéter bêtement ce que l'un des sound sourceurs m'a dit récemment, c'est il y a une difficulté qui est intrinsèque en fait à notre domaine, c'est typiquement le machine learning là, quand on parle de la détection automatique de patterns dans des images, tu sais, maintenant on est très fort pour faire ça, de dire mais tiens là t'as un chat, là t'as une boîte, là t'as mais ça c'est des domaines de valeurs qui sont ce qu'on appelle continu, c'est-à-dire que si tu remplaces un ou deux pixels dans l'image, ça te change pas la nature profonde en fait de l'image et de l'objet à détecter. Or dans notre domaine, en fait c'est plutôt un domaine de valeurs discrètes, c'est-à-dire que il suffit que tu injectes un statement bien placé pour que ça te change totalement la nature de ce que veut dire le code. Et lié à ça, on a encore un peu de mal à voir comment appliquer du machine learning à ce qu'on fait. Alors ceci dit, il y a quand même des petits outils en place. Par exemple, t'as un outil qui est capable sur du code anonymisé de te donner un nom pertinent à chaque variable qui a été anonymisée. C'est un exemple d'utilisation du machine learning. Un autre qu'on a en tête, alors je pense qu'on n'aura pas le temps cette année de commencer à travailler dessus, mais on aimerait bien en fait, à partir d'un code existant, donc par exemple tu es en train de développer dans ton IDE, à partir de ce que tu as écrit, de commencer à intuiter les 3-4 lignes suivantes, donc en gros avoir un mécanisme de complétion mais intelligent en fait. Alors évidemment tout ça sous forme de wizard le plus transparent possible et sans trop interférer avec le flow de développement, mais ça peut être extrêmement utile quand t'es en train d'utiliser une API et puis tout d'un coup tu te dis ah, mais c'est quoi la suite, ah bah tiens c'est ça, en avant. Donc ça c'est des cas d'usage possibles. Et après et réussir à détecter même des bugs fonctionnels en apprenant de tout l'historique des changements sur un projet, ça c'est la quête du Graal, mais on est au niveau zéro là sur le sujet.
Bon.
Quitte à te décevoir.
Ouais, là je suis déçu là. Je croyais que ça allait corriger enfin tous mes bugs, que j'allais plus rien avoir à faire. Ça détecterait, voire même avant que je l'écrive, l'ensemble des âneries que je peux pondre chaque jour. Et bon.
Ouais, ça serait beau d'avoir Sonarline qui te dit, t'as même pas encore tapé l'erreur, qui te dit attention, tu vas faire une erreur.
Tu vas faire quelque chose de. Non, fais malheureux. Non, mais pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux coder un EJB? Oh, pardon, j'ai rien dit.
Eh, d'ailleurs, attends, je suis en train de mentionner Sonarline. J'ai oublié à un moment donné de parler des, juste très rapidement. Parce qu'en fait, des trois produits, parce que la plupart des gens connaissent SonarCube.
Ouais.
Mais pas Sonarline et SonarCloud. Et, bon, Sonarline, c'est la même chose, mais dans l'IDE, donc Sonarline pour Visual Studio, Visual Studio Code, etc. Puis là, c'est pour bénéficier du feedback au moment où tu es en train de taper. Mais j'aimerais insister un tout petit peu sur SonarCloud, parce qu'en fait, tout à l'heure, je parlais des quatre suites logicielles un petit peu majeures, là. Les VSTS, GitHub, GitLab, Bitbucket. En fait, ce qu'on est en train de faire avec SonarCloud, c'est que tout utilisateur d'un de ces services en ligne, on est en train de faire en sorte que SonarCloud soit totalement intégré avec ces quatre services, donc c'est encore un travail en cours, mais pour que demain t'as un projet GitHub, tu te logs avec ton login GitHub dans SonarCloud, tu dis tu te débrouilles avec ce projet, et puis c'est parti, les pull requests sont automatiquement décorés, t'as pas besoin de configurer quoi que ce soit. Donc ça c'est un petit peu notre jouet là en ce moment là, et on y croit beaucoup là à l'avenir de SonarCloud. Je voulais juste faire une toute petite parenthèse. Je suis désolé, j'ai fait de la promotion de produits sur la fin, là.
Personnellement, j'utilise, donc effectivement, je sais.
D'accord.
Bon, après, je l'utilise. Moi, je fais pas de trucs magiques. J'utilise un truc qui s'appelle Jenkins. J'ai mis 3 lignes de pipeline dedans et ça me fait tout seul mon analyse sonar. Bien sûr, avec du Maven qui fait tout le boulot pour moi et je suis très content avec. Donc, moi, ça marche très bien et très facilement. Donc, mais effectivement, si j'avais juste rien à faire et que ça soit automatiquement dans Sonar Cloud, juste en ayant mon code open source dans GitHub, ça serait effectivement l'idéal.
Ça serait encore mieux.
C'est ça. Ouais. Bon, bah merci en tout cas. Bon bah merci beaucoup Freddy pour toutes ces informations. J'espère que vous aurez apprécié cet échange sur la qualité du code, que vous aurez retenu beaucoup de choses sur les à faire, les pas à faire, et puis bon bah que finalement hein, le développeur c'est quand même ce qui reste le plus important. Donc les outils sont là pour aider, ils peuvent nous aider beaucoup, mais voilà il faut quand même que les développeurs soient là et qu'ils aient les moyens de faire. Donc, bah, merci beaucoup.
Ne débranchons pas le cerveau.
Ouais, c'est ça. Ne débranchons pas encore.
Et, merci beaucoup encore pour l'invitation.
Bah, merci Freddy. Allez.
C'était un vrai plaisir.
Bonne journée tout le monde. Au revoir.
Ciao, ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.